Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et à tous. Qu'attend-on d'une collectivité en matière de procédure anticorruption ? Que contient un plan anticorruption ? Est-ce la même chose qu'un plan appliqué au secteur privé ? Olivier Salvador, expert à l'AFA, nous raconte tout. Alors, à vos plans.
L'article 17 de la loi Sapin 2 énumère les points clés d'un plan anticorruption pour les entreprises assujetties à l'obligation de mettre en œuvre un plan anticorruption. Ces points, repris des meilleurs standards internationaux, sont 1. Une cartographie des risques, 2. Un code de conduite opposable, 3. Un dispositif de sensibilisation et de formation, 4. Des procédures d'évaluation de l'intégrité des tiers, 5. Un dispositif d'alerte interne, 6. Des procédures de contrôle interne et des procédures de contrôle comptable, enfin 7. Un régime disciplinaire. Chaque composant d'un dispositif anticorruption s'inscrit dans une logique au sein de laquelle les mesures interagissent. Une mesure viendrait à manquer, cela pourrait mettre en péril l'effectivité de tout le dispositif. Par exemple, l'absence de code de conduite renvoie les agents et les salariés à des comportements individuels. Ils n'ont pas de cadre de référence, ils sont livrés à eux-mêmes, il y a un risque. Supprimer le dispositif d'alerte interne peut faciliter les comportements individuels inappropriés, il y a un risque. Ne pas faire de cartographie des risques revient à vouloir empêcher ce que l'on n'a pas préalablement identifié et évalué, c'est illusoire, il y a un risque. Les recommandations de l'AFA sont une méthodologie permettant de mettre en œuvre les procédures attendues d'un acteur public au terme de la loi. Ces mesures sont inspirées de celles listées à l'article 17 de la loi Sapin 2 en les adaptant aux acteurs publics locaux.
Le premier pilier du dispositif anticorruption est l'engagement de l'instance dirigeante. Cet engagement concrétise la volonté de la collectivité publique de se doter d'un dispositif anticorruption. Cet engagement se traduit par la volonté ferme de faire, avec le vote de l'Assemblée délibérante, une note de service, une instruction de service, un règlement intérieur, la fixation d'un calendrier ferme de déploiement, la dotation ou la réallocation de moyens humains et financiers et avec la nomination des responsables du projet. L'engagement de l'instance dirigeante se traduit également par une politique de tolérance zéro, à savoir la promesse d'une sanction. Elle se traduit aussi avec l'exemplarité des dirigeants. Ce dernier point est d'autant plus important qu'il semblerait incohérent de requérir des agents ce que l'instance dirigeante elle-même, y compris les élus locaux, ne fait pas. Le deuxième pilier est la cartographie des risques de corruption. Établir une cartographie des risques, c'est tout d'abord recenser les scénarios de risque concernant les risques de corruption, de conflits d'intérêts, de favoritisme, etc. Puis, il s'agit d'évaluer la probabilité de réalisation de ces risques et leur impact multidimensionnel. Ensuite, les risques doivent être classés en fonction de l'importance à les traiter en priorité. Enfin, il est question d'adopter ou adapter les mesures correctrices qui permettent de réduire ces risques en allouant les moyens les plus importants aux risques majeurs. Sans cartographie des risques, il n'y a pas de dispositif anticorruption efficace. De cette cartographie des risques, et seulement après cette cartographie des risques, vont découler les mesures de gestion des risques. C'est le troisième pilier. Les mesures découlant du troisième pilier s'articulent autour de trois catégories. Tout d'abord, un groupe de mesures de prévention destinées à prévenir la réalisation des risques. Ce groupe prévention comprend un code de conduite. Opposable aux agents et aux élus, il définit les comportements à proscrire et les conduites à tenir. Il informe sur l'assistance qui peut être apportée, comme le recours au référent déontologue par exemple, et sur la suite à réserver à une information ou un comportement. Lorsqu'il comprend un volet cadeau et invitation, ce que l'AFA recommande, les agents et les élus s'y conforment afin de ne pas accepter de cadeaux et d'invitations compromettants. La prévention comprend également une action de formation des personnes les plus exposées et de sensibilisation des autres agents. La cartographie des risques permet de déterminer les personnes qui feront l'objet d'une formation approfondie et celles qui feront l'objet d'une simple sensibilisation. La formation et la sensibilisation portent sur les atteintes à la probité afin de les reconnaître et donc les éviter. Elles portent également sur le fonctionnement du dispositif anticorruption mis en œuvre par la collectivité. La prévention comprend une évaluation de l'intégrité des tiers extérieurs à la collectivité avec lesquels cette dernière interagit dans l'exercice de ses missions. Alors que la collectivité a formé son personnel et ses élus et a adapté ses procédures internes pour prévenir la corruption, il est cohérent d'évaluer l'intégrité de ces tiers recensés à l'occasion de la cartographie des risques, eu égard aux risques de corruption qu'une relation avec eux pourrait induire. Après le groupe de prévention, vient le groupe de détection qui comprend deux mesures. Un dispositif d'alerte interne tout d'abord. Ce dispositif permet de signaler une situation de conflit d'intérêts ou un comportement inadapté contraire au code de conduite ou à la loi. Cette remontée d'informations est nécessaire à la collectivité afin qu'elle puisse mettre un terme à une situation anormale et, le cas échéant, adapter ses procédures internes. Lorsque plusieurs dispositifs existent comme l'alerte conflit d'intérêts, l'alerte éthique, l'alerte anticorruption, la règle de bonne gestion des deniers publics ne s'oppose pas à ce qu'ils soient fusionnés. La seconde mesure de détection est un dispositif de contrôle interne, y compris de contrôle comptable. Le contrôle interne comprend notamment un contrôle hiérarchique ainsi qu'un service d'inspection ou d'audit des services. Le contrôle interne permet de s'assurer que les procédures sont respectées et encore d'actualité. Le contrôle est la contrepartie naturelle de la confiance accordée aux agents dans l'exercice de leur mission. Vient ensuite une troisième catégorie de mesures découlant du pilier « gestion des risques ». Il s'agit des mesures de remédiation divisées en deux groupes. Tout d'abord, l'adoption ou l'adaptation des mesures. Lorsqu'un risque se réalise, cela démontre que le dispositif anticorruption a été contourné ou mis en échec. Dans une démarche d'amélioration continue, la collectivité adapte alors les mesures déjà prises ou adopte de nouvelles mesures donnant un caractère réactif et dynamique à son dispositif anticorruption. Lorsqu'un risque se réalise, un dispositif de sanction s'enclenche en application de la politique de tolérance zéro. Cette dernière dissuade les mauvais comportements et, à ne pas négliger, elle montre que la hiérarchie distingue nettement les agents qui agissent avec probité de ceux qui attendent à la probité. D'abord administrative, la sanction peut aussi être conservatoire, mais elle n'est pas exclusive des poursuites pénales lorsque les manquements constatés sont des infractions relevant du code pénal. La sanction pénale, qui relève du juge seul, prend la forme d'un dépôt de plainte ou d'un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale.
On le voit, un dispositif anticorruption est cohérent et s'articule autour de trois piliers fondamentaux, l'engagement de l'instance dirigeante, une cartographie des risques et un ensemble de mesures. Néanmoins, les entités du secteur public local doivent mettre en œuvre d'autres dispositions propres aux collectivités locales et qui concourent elles aussi à la probité.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.